production podcast.
Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, Tommy Godette au micro, très content de vous accueillir à ce nouvel épisode de Terrain Basique, le plus québécois de tous les podcasts de la création. Comme un petit peu d'habitude, on a une trame sonore en background, j'hésite à vous dire c'est laquelle, je pense que vous allez la reconnaître, sinon tout bad, c'est Zelda 2. Un jeu qui avait quand même frappé un peu les imaginaires dans le temps, parce que on était passé de Zelda, un des jeux les plus iconiques du Nintendo, Overview, vu d'en haut, à une espèce de platformer de côté. C'est encore un jeu qui sort un petit peu de la série, genre qui est pas pareil aux autres Zelda, mais ça en reste un excellent, avec des levels et tout. Ça a été choisi par notre invité de la semaine, un certain Laurence. Salut mec!
Bonjour, bonjour!
Bienvenue à Terrain Basique. Toi, on t'a invité en ta qualité de joueur de Magic Old School.
Yes, exactement, exactement. J'imagine que vous voulez surtout parler du gros tournoi qui s'en vient en mars qu'on va organiser.
Ah oui, c'est toi qui organise ça, l'affaire des cartes avant 95 et tout.
Ben, moi, je suis un joueur qui est très présent dans la scène montréalaise, mais ce tournoi-là, vraiment, c'est le bébé d'un autre de nos joueurs, okay, qui est François Raouf d'Herbas Thibodeau.
On va avoir le temps de développer dans l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Un petit peu comme d'habitude, on est flanqué de la faune habituelle. Il y a Caroline qui est là cette semaine.
Je suis une fille et je joue à Magic.
Et voilà, ça existe. Et on a aussi Milan.
Hey, salut.
Ouais, c'est ça. Lâche-les, ton M-Racule. Lâche-les.
Mais c'est tellement bon, Tommy.
Et Jason Keys, notre érudit de la chose. Salut, mon
oui,
gars.
Écoute, j'ai commencé à jouer à Magic Old School récemment.
Oui.
Je suis allé à mon premier il y a deux semaines, je pense, un vendredi. Puis j'ai pogné la piqûre, puis c'est pour ça que je voulais qu'on faisait un épisode sur Magic Old School.
On focus là-dessus, là. Les Earth Raiders redeviennent super forts.
Hypnotic Spectre.
Ah ben, crée, ça c'est ouais, ça c'est encore très fort. Sinon, ben pour commencer l'émission, on va faire un petit tour de table. On est old school. Je veux savoir, c'est quoi votre carte préférée bêta et celle que vous aimez le moins aussi. Ça peut impliquer du wording. Hein. D'ailleurs, je vais commencer. Moi, ma préférée bêta, je ne sais pas. Mais celle que j'aime le plus, c'est Castle. C'est sûr et certain. Castle, ça, dans le temps avec les vigilances, parce que Castle, c'est un enchantement qui coûte 2 colorless, un blanc, je pense. Et ça donne plus 0, plus 2 à toutes tes créatures untappées. Et ça, c'était le premier wording. Et yeah. ils ont changé le wording. Après, c'était rendu plus 0, plus 2 à toutes tes créatures untappées qui ne sont pas en train d'attaquer.
Il y a des gens chez vous qui jouaient ça, c'est pas bon. Ça.
Ah! Attacking creatures lose this bonus. C'est ça, ils l'avaient précisé. Parce qu'à l'époque, si tu sortais des Castle, t'avais des Pegasus Bending,
oui.
T'avais des Sarah Angel, fait que là, ton Sarah Angel, il tapait pas en attaquant, fait qu'il gardait le pouvoir de tout ça. Avec le Pegasus Bending, t'avais un hostie de le Pegasus Bending, c'est un Pegasus, un colorless, un blanc, un flying Bending. Bending, c'est un pouvoir qui n'existera plus, c'est un petit peu trop compliqué, mais bon, le mélange des deux faisait que c'était comme intuable, là. C'était vraiment gossant de passer au travers de tout ça. Ça l'a ruiné beaucoup de mes heures de plaisir et ça m'a fait penser que je viens de me rappeler ma carte préférée de bêta. C'est le Prodigal Sorcerer. J'ai fait un deck, mon premier deck que j'ai fait, c'est avec le Prodigal Sorcerer. Un bleu, deux colorless, c'est un monstre 1-1 que tu peux taper pour faire un dommage quand tu veux. Ça te fait des avant mon tour de tout, de tellement de plaisir. Laurence, c'est à ton tour.
Écoute, j'ai essayé de trouver vraiment une carte que j'aimais pas.
On n'est pas la carte de la semaine.
Non, je sais. Mais écoute, vite de même, je te dirais n'importe quelle des cartes, tu sais, comme Pure Lace, tu sais, que c'est comme, tu regardes ça, puis tu fais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Ça rend une créature blanche.
Ouais, genre, quelque chose du genre, tu sais, c'est trop narrow, tu sais. Fait que c'est comme...
Non, mais ça, c'est les cartes que tu veux... Là, on parle des cartes qu'on peut pas jouer avec parce qu'elles sont pas bonnes.
Non,
des cartes qui nous
carte
font vraiment.
C'est la carte que j'aime le moins. Juste parce que tu la regardes, puis c'est. En plus, je pense que c'est une rare, tu sais. Tu l'ouvrais là, dans le temps.
Ouais, tu l'ouvrais dans le temps, puis
tabarouette.
Puis il y a une carte que t'aimes.
New mon Lord of the Pit. Écoute, je vais être plate, je vais dire Ancestral Recall parce que c'est tellement le fun de piger trois cartes à la fin du tour de l'autre.
Ça, c'est ça. À la fin du tour de l'autre, Jason.
Moi, c'est le Mishra Factory. Ah. Parce que je peux le mettre dans n'importe quel deck. C'est un land qui permet d'avoir un colorless quand tu le tapes. Puis tu peux payer un pour le rendre un 2-2 artefact,
ouais,
créature. Puis tu peux le taper lui-même pour qu'il devienne un 3-3.
Ouais, ou tu peux donner +1/+1
ou un autre Mishra Factory.
Et ça, c'est une carte aussi qui avait comme 4 saisons. Les 4
ouais.
saisons.
Dans le Heartwork là, dans Antiquities, t'avais ouais. le hiver, printemps, automne, été.
Ouais.
Je pense qu'elle est pas mal jouée encore aujourd'hui dans le format old school en 2018. Là. Mais je me rappelle à l'époque, c'était vraiment la carte.
Ouais, c'est dû 3 de dommages de début de match qui
non,
mais
c'est tu peux pas la rendre 3 quand t'attaques. C'est
ben
quand
non, je sais, mais souvent, t'en mets un premier tour. Puis là, t'en mets un ou le deuxième tour. Puis là, tu mets un autre land. Puis en tout cas, Milan, peut-être rapidement.
Écoute, moi, ma préférée, j'hésite entre Time Twister ou Time Walk. Et puis, j'aime beaucoup Time Twister juste parce que c'est plus cool que Time Walk. Le Time Walk, c'est
un autre
tour pour deux, là, whatever, tu sais. Puis sinon, je te dirais que Animate Wall, là, c'est pas mal une des pires cartes de printemps.
Bien vu.
C'est vraiment de la merde.
Caro, veux-tu te laisser aller? Toi, t'as commencé après bêta pas mal. Là.
Ouais. Puis je te dirais qu'une de mes grandes qualités dans la vie, c'est de me rappeler d'absolument le nom de toutes les cartes puis d'avoir une très bonne mémoire. Alors, je te dirais que ma carte préférée, c'est probablement celle dans le noir qui était vraiment écœurante.
Okay.
Celle que j'aime le moins, c'était celle dans le rouge qui était crissement chiante.
Qui était là, super
chiant. Vraiment, ouais, fait que c'est ça.
Voilà. Ben merci beaucoup, ce qui va nous amener tranquillement à notre carte de la semaine. Vas-y, Bone. Et la carte de la semaine, ça a été choisi cette semaine par notre invité Laurence. Vas-y, man, parle-nous de ta carte de la semaine.
Ok, ma carte de la semaine que j'ai choisi, c'est le Sleight of Mind, ou en français la tricherie mentale. Et c'est un peu paradoxal parce que elle ressemble vraiment, quand tu la lis, à ma carte Pure Lace que j'ai choisie.
Ouais, c'est pour ça que j'ai resté sur. C'est presque la même chose. Décris-nous qu'est-ce qu'elle fait en premier.
Mais, ok, celle-ci, elle va. Oh, c'est un instant bleu, premièrement. Puis, elle te permet de changer le texte de n'importe quelle carte, que ce soit sur le stack ou sur le battlefield en tant que permanent. Et qu'est-ce que tu changes, en fait, sur la carte, c'est le un des mots qui représente une couleur.
Ouais, donc tu peux
changer.
Protection from green à la place de protection from.
Il donne même un exemple sur la carte, c'est assez rigolo. Ils disent, for example, you can change counter target red spell to counter target black spell. Donc ça donne une idée directement de qu'est-ce qu'on peut faire avec counter target red spell. C'est quoi? C'est red elemental blast dans le fond.
Ouais.
Right. Fait que t'es en train de te caster un beau spell bleu, comme par exemple Ancestral Recall à la fin du tour de ton adversaire. Tu te le fais red blaster, alors lui il arrive en jeu. Puis
juste un petit rappel de red pour les néophytes là, qui n'existaient pas en 95. Red Elemental Blast est un instant qui coûte un rouge. Tu peux counterer un target spell qui est bleu ou détruire un permanent bleu. Puis il y avait son pendant dans le bleu qui était Blue
Elemental
Blast
qui pète un spell rouge ou un permanent rouge.
Ouais.
Et voilà.
Fait que c'est ça. Tu joues ça, puis là, tu transformes le mot bleu sur Red Elemental Blast à n'importe quelle autre couleur qui est pas pertinente, puis ça va le contrer.
Et ça arrive quand même assez souvent dans le jeu qu'il y a des couleurs. C'est une carte qui est plus versatile qu'on pense au départ.
Exactement. Tu la lis, tu dis tabarouette, c'est un autre Pure Lace. Mais non. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre aussi? Tu peux changer la couleur sur un Circle of Protection.
Oui.
Que ce soit le tien ou celui de ton adversaire qui t'emmerde.
Protection, oui. Enchantement, un colorless, un blanc, puis tu peux taper un colorless pour annuler une carte qui t'attaque.
Set
de
protection, on en voit plus par passer beaucoup.
Mais dans Old School, c'est-tu encore beaucoup joué en compétition? Je sais que c'est beaucoup sideboard, j'imagine.
Dans Old School, là, Circle of Protection Red, c'est un classique des sideboards.
C'est un must.
Circle of Protection Black se voit aussi parce que le deck mono noir est tellement fort.
Moi, c'est ça que je joue. Slate of N, es-tu vu? Slate of Mind, je veux dire.
Ben, c'est un peu underplayed selon moi parce que je pense que c'est le plus de potentiel justement que ce que le monde réalise. Moi, j'essaie d'en mettre un dans tous mes decks où ça a de l'allure, tu sais. Où justement l'interaction que je viens de vous dire avec Red Blast est pertinente, avec les circles, ça peut changer le protection d'un de tes knights.
Ouais,
tes White Knight
White
ou
Knight
Order of
Leader. White protection contre le vert, par exemple. Ouais.
Mais le plus juteux, je vais vous le dire, c'est quand l'autre joue son Gloom.
Oui!
Puis
oh
tu
oui!
changes White à Black.
Pour rappeler Gloom, je suis sûr que ça, moi je le sideboard dans mon deck de noir.
Et voilà.
Enchantement, deux colorless, un noir. Toutes les spells blancs coûtent 3 de plus à caster. Puis ça inclut aussi les activated abilities sur une carte.
Les enchantements blancs coûtent 3 colorless de plus.
Non, c'est toutes les spells blancs.
Activated abilities of white enchantments.
Ah oui, 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 excuse-moi.
3 colorless more to it.
Mais ce qui est important, c'est les créatures puis les instants.
Ben oui.
Moi, je le joue dans mon sideboard. C'est, tu fais tour 1, Dark Ritual, 3 mana noires, tu casses Gloom, c'est fini. Là.
Et voilà.
À moins que. De blanc. Là. J'ai le slide
of oh, oui.
Et là, c'est fini pour toi, par exemple.
Oui,
parce que tu changes blanc à black. Puis là, c'est tes spells noirs qui coûtent 3
casser. C'est vrai que ça a du potentiel, c'est l'Ovine.
Ouais, ouais. Plus on y pense, plus on trouve des applications.
Une carte versatile. Merci beaucoup, Laurence. Tranquillement, on s'en va vers le sujet principal de la semaine. Vas-y, bon. Donc, cette semaine, Jason, tu nous as trouvé un joueur de Magic old school qui est venu jaser avec nous au Musée de l'Absurde à cet enregistrement. Parle-nous un petit peu de votre rencontre en ligne.
Ben, avant, je veux juste format old.
Non, non.
Le format old school.
Non, non.
C'est comme ça que ça m'a amené à, okay. à le connaître parce que c'est devenu à la mode. Ça fait quelques années là, que ça décolle. Là. J'ai remarqué les prix des vieilles cartes. Juste un petit rappel, le format old school, il y a en Amérique du Nord parce qu'en Europe, ils jouent un peu différemment, je pense. Mm-hmm. Me corrigera tantôt. Format old school, c'est toutes les cartes qui sont entre 93 et décembre 94, c'est-à-dire de Alpha jusqu'à Fallen Empire.
Mm-hmm.
En Europe, ils n'acceptent pas Fallen Empire. C'est ouais, la c'est différence. Et donc, c'est ça. C'est joué à Magic comme on le jouait en 1994 et t'as pas le droit de reprint où l'image est différente.
Okay.
Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été réprimées, par exemple, dans M10. Par contre, cependant, tu peux avoir une carte imprimée en 96. En 95, comme par exemple le exemple qui me vient, le Wrath of God, il a gardé la même image jusqu'à la quatrième édition. Fait que tu peux le jouer quand même, mais tu pourras pas jouer un Wrath of God de Theros par exemple.
Fait que dans le fond, t'es en train de me dire que ce qui est important dans le Magic
c'est
Old
le
School,
dessin.
C'est le art design. On va avoir un board qui ressemble à ce qu'on regardait dans les années 90.
C'est ça, c'est d'avoir un feel old school sur les cartes.
Ok. Puis pourquoi qu'on joue à ça?
Parce que c'est le fun. Laurence va pouvoir. Moi, j'ai les pognés la piqûre. Vas-y, Laurence.
Exactement, parce que c'est le fun, tu sais. Il y a une raison pour qu'on joue encore à Magic 20 ans plus tard. C'est parce que le jeu de base était vraiment bon.
Oui.
Ouais, étonnamment, 20 ans plus tard, ça tient encore la route. Moi, j'ai joué à plein de formats. Puis celui-là, c'est celui que je trouve le plus fun, personnellement.
Mais là, la première question que les gens vont se dire, c'est j'ai pas de Black Lotus, j'ai pas de Mox, est-ce que je peux jouer à format
non.
old school?
Non.
Écoute, la réponse est oui, de toutes sortes de façons différentes. Oui, premièrement, parce que même si t'as pas de Black Lotus ou de Mox ou quoi que ce soit, il y a moyen de faire des decks super forts. Puis c'est pas des jokes là ça c'est
y a des cartes restrict ou jouez-vous les règlements vintage? Tu peux-tu avoir 4 Black Lotus dans ton deck?
Non,
c'est le
restrict de 94.
Ok, c'est ça. Okay.
Tu peux juste avoir un Black Vise.
Non, c'était comme ça au début, maintenant ça a été changé.
Ah, ils l'ont enlevé?
Ouais, la list restricted, on peut la consulter sur plein de sites, et sur le blog original des Suédois qui ont inventé le format,
oui.
Est aussi sur le site de Eternal Central.
Fait que c'est pas la même liste que Vintage, là. c'est une liste pour le format.
Ouais, il y a certaines différences, mais essentiellement c'est ce qu'on s'attend. Tu sais, toutes les mocks sont restrict, Ancestral, Time Walk, ces choses-là.
T'as-tu inventé ça? T'es-tu fan de ce type-là parce que t'as peur d'Emrakul? C'est-tu lié?
Non, c'est quasiment.
Je pense qu'il a peur, gars. Il regarde le plafond.
On va dire, c'est-tu parce que tu t'es tanné de Legacy puis de Vintage?
Non, t'as-tu peur d'Emrakul?
Pas vraiment. Est-ce que j'ai peur d'Emrakul? Écoute, comme tout le monde, je pense, là.
Ok. Non, Milan, il l'aime.
Mais qu'est-ce qui amène les gens à jouer old school?
Ben, je pense que le facteur numéro un, c'est la nostalgie. Souvent, c'est les gens qui ont joué dans le temps qui sont attirés vers ça, parce qu'ils se souviennent que c'était vraiment le fun.
Puis ça attire aussi les gens qui ont les cartes qui traînent chez eux depuis longtemps.
Moi, c'est pour ça que j'ai remarqué. J'aurais tout gardé mes vieilles cartes. J'avais vendu mes grosses de valeur, comme mes Double Land, ça. Mais moi, je joue Mono Noir. C'est Black Knight, Order of the Ebonen, Into Turak. Puis je trouve que ça se tient. Je suis allé dans un tournoi le vendredi, il y a 2 semaines, je pense. Puis, tu sais, même contre des gens qui avaient des Power 9, là, des Black Lotus, puis ça, j'ai pas gagné le tournoi, mais je me suis pas fait ramasser non plus comme je m'attendais.
Non, absolument pas. C'est un préjugé que les gens ont en partant. Oh, j'ai pas de power, je vais me faire démolir. Non. Toutes les decks, toutes les couleurs ont un deck monocouleur qui est parmi les meilleurs. Mono noir, c'est super bon. Mono rouge gobelin. Dernier tournoi qu'on a fait, 8-0.
Ah ouais?
Ouais.
Il joue des Blood Moon.
Même pas.
Sans Blood Moon?
Non.
Je me demandais, Blood Moon, c'est l'enchantement, deux colorless, un rouge qui change toutes les non-basic lands en montagne.
Mm-hmm.
Moi, j'ai remarqué qu'il joue. Il y a une carte dans The Dark, c'est Goblin Sled. J'ai vu des gens sur Internet le jouer dans le deck de Goblin Rouge.
Oh,
parce qu'il est Mountain Walk.
Ah, ça, c'est spicy.
Fait qu'avec ton Blood Moon, l'autre, il y a des montagnes.
Ah, bah oui, bah oui.
Tu sais, c'est un 3-1 qui rentre dedans automatiquement.
Ouais.
Ouais, oui, c'est ça qui est le fun. Puis j'ai remarqué le même vert et rouge là, avec des Curd Ape.
Ouais, ça c'est un classique aussi que les gens aiment bien.
Curd Ape, c'est un.
Un rouge. Si t'as une montagne, une forêt en jeu, il est plus 1, plus 2. Ça veut dire que t'as un monstre 2-3 pour un mana. C'est... À l'époque, je me souviens quand j'ai commencé, on se demandait qu'est-ce qu'il y avait eu comme bulle au cerveau, ce monde-là, qui avait fait ça. Là. C'est quand même assez fort. Mais continue, mon cher. Dans le sens, toi, tu dis que ça a commencé en Suède.
Ouais. Ouais. Ils ont commencé à jouer ensemble en 2007, eux autres. Pour le fun, là.
De ressusciter le...
Ouais, pour le fun, tu sais, il y en a un qui s'est bâti un deck comme ça en joke. Puis l'autre, il a dit, OK, son ami, il a dit, OK, moi aussi, je vais m'en faire un deck. Puis ils ont commencé à jouer, puis ils ont pogné la piqûre, tu sais.
Puis là, il y en a un à côté qui a regardé, puis là, c'est un qui a dit, hey, moi, je vais vous battre.
Ah oh, oui, ça a vraiment pogné, parce que moi, j'ai remarqué, autour de 2017, je pense, les cartes ont vraiment spiké, là, de Dark... j'avais vu les vieux pas les Blood Bowl, là, mais comme une carte comme Stone Calendar à un moment donné était comme 2$ puis elle a monté à 15-20$.
C'est quoi ça?
Stone Calendar, c'est, je me rappelle plus le casting cost là, c'est un artefact qui fait que toutes tes spells coûtent un moins à caster.
C'est de la boîte, mais à un moment donné...
Mais tu sais, c'est qu'il y a de la spéculation, parce que les gens se disent old school. Non, excuse, c'est un qui avait spiké, c'était... dans le bleu, là.
Ce serait plus difficile de trouver une carte qui n'a pas spiké, en fait.
Ouais, ils ont tout augmenté de valeur.
Parce qu'à un moment donné, les gens qui sont dans le monde de la finance, qui essaient de faire de l'argent avec les bouts de carton Magic, se sont mis à acheter absolument n'importe quoi. Ça avait plus de bon sens à un moment donné. Là, je pense que ça commence à redescendre. Là. Ils ont dû se rendre compte que...
Moi, j'ai pas remarqué. Là. Puis, on a François Lompré qui est allé récemment se magasiner des Strip Mines.
Mm-hmm.
Ça, c'est le land que tu peux sacrifier pour péter des lands. Puis... tu peux pas en pogner un en bas de 25$, je pense. T'sais, si tu veux qu'il n'est pas trop magané, là, c'est...
Ah, c'est triste, ça.
Ouais, mais en même temps, 25$, c'est pas cher là, pour ouais, du Magic. Faut... Là,
non, mais c'est parce que si tu veux acheter ça, après ça, tu veux acheter des cartes qui coûtent 100$, puis déjà, tes 4 laines, c'est 100$ pour 4
laines. Ouais, mais des Wastelands, c'est combien, tu sais?
Bon,
c'est
point.
Le double du prix, mais... tu sais. Fait que si tu regardes toutes les autres options dans tous les autres formats, à part, mettons, moderne, parce que les cartes sont quand même récentes, donc assez cheap, c'est tout cher.
Ouais, c'est tout cher.
Mais, du Petland, c'est tout le temps cher.
Mon point, c'était que je trouvais que MTG Old School, tu pouvais quand même t'en sortir avec un pas pire...
Dans le sens que les Air Graders puis les Black Knight, ça vaut 50 cents.
Mais tu sais, je pense que la restriction qui me chicote le plus, c'est le art. Je comprends le appeal de vouloir dire on veut que ça ait l'air old school, sauf que vu que ces art, ces prints-là, de ces années-là vont monter en valeur. Tu sais, je veux dire, si tu veux un Lightning Bolt Alpha, là, c'est 700$. Là. Oui, ils en ont printé ce art-là très, très, très longtemps, fait que c'est facile.
Tu peux prendre ton Lightning Bolt 3e édition.
Exact. Ben, ou 7e, je pense que c'est le même. Là, tu sais.
Ah ouais.
Mais ça peut créer.
Ça reste très mal.
C'est ça.
Ça reste très mal.
Ouais, effectivement.
Moi, je trouve ça fun qu'elle est.
Ça rajoute une twist qui, on dirait, s'éloigne du fun pour aller dans le superficiel. Là. Mais l'important, c'est que les Suédois y aillent se carrer. Laurence, il est là pour nous parler de ça. D'ailleurs, vous avez un tournoi qui s'en vient. C'est-tu un événement récurrent? Ça arrive-tu.
Écoute, à Montréal, on a une sorte de ligue, en fait.
Oh! Parle de ça.
Qui roule à l'année longue.
OK.
On se réunit à tous les jeudis pour jouer casual. Tester, comme ils disent. Puis le premier jeudi du mois, là, on fait un tournoi. Avec en jeu, une carte Tundra Wolves. Que tout le monde va autographier.
OK.
Puis le gagnant gagne ça. C'est son trophée. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à la fin de l'année, il y a un tournoi qu'on appelle régional, où chaque Tundra Wolves gagné au cours de l'année va donner un avantage.
pourquoi ce carte-là en particulier?
C'est comme ça.
C'est un blanc, un first strike.
C'est la tradition dans les groupes old school que on se prend comme un nom de clan.
Okay. Fait que là, vous êtes les Tundra Wolves.
On est les Tundra Wolves. Aux États-Unis, il y a les Beasts of the Bay. Nos voisins en Nouvelle-Angleterre sont les Old Men of the Sea. Oh, ouais, c'est drôle. Cool. Écoute, le plus drôle, c'est les Felwar Stoners.
Les Felwar Stoners. Mais Tundra Wolves, oui, j'avoue, ça fait thématique Canada-Québec.
C'est ça.
OK, puis je continue.
Ouais, OK, donc on accumule des Tundra Wolves à tous les mois. Et au tournoi régional à la fin, ça nous donne un avantage. Comme par exemple, là, on vient de faire le tournoi pour qui venait clore l'année de jeu 2018.
C'est où vous jouez?
Puis, on joue à la brasserie à l'affût la plupart du temps.
Ah,
c'est sur Papineau, proche du pont.
Ah oui, okay, ben c'est juste à côté du brouhaha.
Mm-hmm, exactement. Ah, okay, cool. Puis là, on a décidé de faire ça funky. Quand t'avais un Tundra Wolves, tu pouvais le jouer comme s'il était dans ta main.
OK.
Une fois dans le tournoi.
Et tu veux dire, t'as un Tundra Wolf gratuit.
C'est un peu comme si il serait Commander un peu. Là.
Exactement.
Faut que tu le
casses. Ouais.
OK.
Un first
c'est ça, tu sais, fait que ça donnait ça un petit avantage, c'est un petit incentive pour gagner des Tundra Wolves au cours de l'année.
Il est signé par tout le monde du tournoi.
Ouais, ça c'est une
tout
autre.
Tout le monde qui t'a pété dans le tournoi qui t'a permis de gagner.
Exactement.
Puis si on veut suivre votre groupe des Tundra Wolves, c'est sur Facebook. Si on veut se joindre à vous en suivant les règles old school, bien entendu.
Oui, exactement. On a un groupe Facebook, c'est Old School.
MTG Montréal.
MTL MTG pour Montreal.
Ok, ok.
Magic the Gathering.
Ok.
Moi, je l'ai trouvé dans la barre de recherche, j'ai écrit MTG Old School Montréal, puis c'est le premier qui a popé.
Excellent.
Il y a une face de loup sur le dessin.
C'est bien probable.
Ben ouais, ben sais-tu pourquoi?
Ouais.
Ok.
À ce temps, je le sais.
Fait que ouais, n'importe qui a des questions, qui est intéressé le moindrement.
Vous êtes combien à date à participer à ça?
On est sur le groupe, il y a une centaine de personnes. Puis, tu sais, il y a comme un groupe, je te dirais, de 8 personnes, tu sais, qui sont là toutes les semaines.
C'est-tu toi, ça?
Ouais. Plus, okay. Plus une vingtaine, mettons, qui viennent une fois par mois, tu sais.
Okay.
Ce qui fait qu'on est toujours, au final, un bon nombre, tu sais.
Assez pour faire un tournoi, puis que le Tundra Wolf soit débattu fièrement.
Absolument, absolument.
On aime ça de même. Puis sinon, est-ce que t'as des cartes modernes que t'aimes plus, là? On parle beaucoup de Magic Old School, mais t'as-tu comme une guild préférée, un set que tu préfères, des affaires plus récentes?
Il joue Old School.
Écoute.
Toi, t'es Old School, c'est tout.
Maintenant, oui. Ouais. J'ai vendu mes trucs. Je jouais à Modern avant.
Ok.
Le deck Bring to Light Scape Shift, que j'aimais beaucoup. Mais à un moment donné, ça a arrêté d'être bon. Autour de quand Dead Shadow est arrivé.
Ouais, fais-y donc un petit câlin, le Caro, il a l'air tout triste. Ça va être correct.
Non, non, old school, je regrette c'est rien.
Regrette rien, c'est bon ça.
Ouais, fait que dans le fond, j'ai tout liquidé mes cartes pour acheter des Dual Land, là.
Le gros événement qui s'en vient, c'est le gros tournoi régional.
Oui, absolument. Parlons de ça. C'est le Tundra Wolves Challenge.
OK.
Ça va avoir lieu le 23 et 24 mars.
OK. Hey, c'est ma fête.
Ouais.
Ouais.
Ben ouais, 23 mars, c'est ma fête.
C'est un truc en trois parties. Samedi matin, le 23, en collaboration avec le FMM, le Festival Magic de Montréal, il y a un événement Team Duo Legacy Old School.
Ok, explique-nous
ça.
Une espèce de tentative de recruter des joueurs Legacy, tu sais. Parce que ouais. Les autres, ils ont déjà les duals.
Ouais.
Ils peuvent jouer à notre format, bâtir n'importe quel deck. Parce que, je ne l'ai pas dit encore, mais c'est important, on permet 10 proxys.
Ah!
À Montréal.
Effectivement. Ok, ça explique pourquoi on parlait de Black Lotus tantôt, puis d'affaires de même. Là.
Ce qui fait que, non seulement tu peux gagner avec un deck monocouleur, mais tu n'es pas obligé. Tu peux jouer un deck.
De Power 9.
Dès que tu as les duals. Tu peux rajouter le Power 9 parce que il y en a 9 puis t'as le droit à 10 proxy.
Oh, ben okay,
c'est vraiment accessible à tout le monde, sérieusement. Donc, pour revenir à mon tournoi, Team Duo Legacy Old School, le gagnant gagne son entrée dans le tournoi du Tundra Wolves Challenge de l'après-midi, où ça c'est purement Old School.
Okay.
Ça commence à 13h, puis là, c'est notre gros événement de l'année. T'sais, c'est la deuxième fois qu'on le fait. L'année passée, on avait eu 39 joueurs.
OK.
De Nouvelle-Écosse, Ontario, États-Unis. T'sais, on a fait de la grosse promotion, la grosse hype. Le monde se sont pointés, c'était malade. Fait qu'on refait ça cette année. On attend, je pense, 50 personnes ou plus cette fois-ci. Puis l'année passée, les gars des États-Unis avaient bien aimé, après le tournoi, aller à la cabane à sucre. Fait qu'on s'est dit, crime, on va incorporer ça dans le programme. Ce qui fait qu'après le tournoi du samedi, ben là, il y a un casual meet-up à la cabane à sucre le dimanche.
Oh, c'est cute.
Ouais, ça va être super le fun.
Vous amenez vos, hein, ça se mélange bien. Les tables sont grandes à ces places-là.
Exactement.
Sinon, si on veut s'inscrire, est-ce que c'est via le site Facebook de tantôt? Est-ce qu'il faut s'inscrire d'avance ou on peut se ramasser à l'affût? C'est quoi, un Papineau puis Rosemont environ, là, ça?
Ouais.
Est-ce qu'on se ramasse là le samedi 23 mars au matin puis avec notre deck, puis ça va être correct?
Oui, on peut s'inscrire sur place. Ou sinon, il va y avoir une préinscription possible. Juste se pointer sur notre site Facebook, chercher un petit peu, ou sinon poser la question, puis il va y avoir un link pour l'événement.
Et voilà, ben on va te taguer sûrement dans l'épisode et tout, pour que les gens soient au courant.
C'est en team de deux.
Ça, c'est pour le team Duo Legacy du matin.
OK.
Ouais, c'est ça.
Puis en après-midi, c'est des duels seuls?
Non, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est un tournoi old school, ben normal, classique, un contre un.
Puis est-ce que ça coûte quelque chose s'inscrire pour ce tournoi-là?
Oui, il va y avoir un coût. C'est rien de phénoménal. Ouais, 25$
pour
environ.
Ça apprécie, hein? On devrait s'en partir des tournois, nous autres, tu sais, 20$
l'entrée. Ah, mais c'est un tournoi où les profits vont à l'organisation caritative Sun Youth.
Oh, c'est donc bien cute.
Oui, j'ai vu que les tournois old school à travers le monde sont caritatifs.
Oui, la plupart, ouais.
OK.
C'est tout le temps ça.
Fait que c'est pas comme pour acheter une boîte d'alpha que tu donnes aux gagnants, là.
Non, okay. C'est aucunement pour le profit. On fait ça pour le plaisir seulement. Puis s'il y a des extras, tu sais, on achète un petit peu de prix gens. Ouais. Puis s'il y a des extras, ben ça s'en va à Sun Youth. L'année passée, on a réussi à ramasser 400$.
Excellent, ça. Hey, Laurence, as-tu une blague pour nous, une joke?
Non, désolé.
Ah, voilà. Il a très humoriste. Ben, je pense que ça nous amène à la fin de l'émission de cette semaine. T'as-tu d'autres choses à rajouter, mon Jason? Toi, t'es rendu là-dedans à fond, old school. Là, tu nous as achalé, partagé ton deck.
C'est sûr,
vas-tu en faire un, Tommy? Vas-tu en faire un? J'ai ton chat qui m'a appelé. Je vais l'étrangler si t'en fais pas un.
On fait un deck, puis on s'en va.
C'est sûr que ça.
Le 23 mars, on s'en va là ensemble.
Ouais, je sais pas. On va voir. Genre, okay. Je te tiens au courant. Merci beaucoup, Laurence, d'être passé.
Ben, ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité.
Ben, ça nous a fait plaisir. Tu reviendras nous parler de comment ça s'est passé. Caroline, merci beaucoup d'avoir participé.
Yeah!
Milan, la même affaire.
Ben oui, hein.
C'est sûr et certain, Jason. Et merci beaucoup aussi à Martin Godette à la console. On vous rappelle qu'on a de la merch à vendre. Checkez ça sur le site de Production Podcast. Sinon, sur notre page Facebook aussi, on a un lien. On est aussi à la recherche de collaborateurs. Si vous avez envie de participer avec l'équipe de Terrain Basique, on est super sympathique. Venez nous voir un vendredi au musée. Ou sinon, écrivez-nous sur Facebook. On a besoin d'amis qui nous aident à populer cette belle page-là, le plus québécois de tous les podcasts de Magic au monde. Là-dessus, ben, merci tout le monde et on vous souhaite à tous d'être le moins manascrou possible.
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.